Bienvenue dans The Debate, notre carrefour d'échange de perspectives. La Finlande vient d'être élue le pays le plus heureux du monde pour la 6e année consécutive. Mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi ces électeurs ont soudainement voté pour un gouvernement qui semble démanteler ce système social même.
Absolument. Et c'est le cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Nous allons décortiquer cette fameuse élection législative d'avril 2023, celle qui a marqué la fin de l'ère Sanna Marin.
C'est ça. Le basculement vers la coalition de droite de Petteri Orpo représente-t-il une correction économique pragmatique et inévitable, ou s'agit-il d'une rupture idéologique profonde, détruisant l'exception nordique? Pour ma part, je défends fermement l'idée que ce virage était une nécessité budgétaire absolue. Le pays faisait face à la crise, à l'inflation et surtout au choc de la rupture avec la Russie.
Eh bien, j'aborde la question sous un angle bien différent. Je suis convaincue que le gouvernement a utilisé cette crise économique comme un simple prétexte pour imposer un repli identitaire vraiment profond. Il cible spécifiquement le modèle social historique pour le mettre en pièces.
Mais attendez, si on regarde les chiffres, l'électorat, il savait exactement ce qu'il faisait. On a eu un taux de participation massif, genre 72%. Et la victoire de la coalition nationale avec 20,82% des voix et 48 sièges, ça prouve que les électeurs privilégiaient l'orthodoxie financière. Sanna Marin a complètement ignoré l'équation économique. Elle a durci son discours sur la sécurité pendant la crise ukrainienne, certes, mais en refusant fermement de réduire les dépenses publiques, elle a effrayé les électeurs modérés.
Sauf que le vrai séisme de cette élection, ce n'est pas Orpo ou son fétichisme de l'équilibre budgétaire. C'est la montée fulgurante du parti des Finlandais, l'extrême droite de Riikka Purra. Il talonne Orpo avec 20,06% des suffrages et 46 sièges. Purra a même récolté 38 000 voix de préférence personnelle, devançant largement tous les autres.
Oui, elle a fait un score historique, c'est sûr.
Et comment a-t-elle fait ? En liant cyniquement la dette publique à l'immigration. Elle a convaincu l'électorat ouvrier, qui était traditionnellement acquis à la gauche, que le trou dans les caisses, c'était la faute des étrangers. C'est le triomphe d'un récit populiste, pas d'un tableau Excel.
C'est peut-être le narratif politique du Parti des Finlandais, je vous l'accorde. Mais la justification des réformes, elle, repose sur une réalité macroéconomique implacable. Aucun gouvernement ne pouvait ignorer ça. Le PIB finlandais a reculé de 0,5% en 2024 et on frôle les 10% de chômage en cette fin d'année 2025.
Oui, mais l'économie...
Laissez-moi finir sur ce point, c'est crucial. L'état-providence finlandais actuel est comme un navire pris dans une tempête géopolitique. Pour ne pas sombrer, il est parfois rationnel de jeter par-dessus bord le lourd fardeau des traditions de consensus. Le modèle nordique, où syndicats et patronats co-gèrent presque tout, c'est formidable par temps calme, mais ça paralyse totalement les réformes en temps de crise.
Je veux bien entendre votre métaphore du navire à sauver, mais la direction que prend le capitaine, elle n'a aucun sens économique. Prenez leur politique migratoire. La Finlande manque de main-d'œuvre qualifiée de manière vitale.
C'est un fait.
Les hôpitaux manquent d'infirmières, les start-ups supplient l'État de les laisser recruter à l'étranger. Et que fait le gouvernement ? Il réduit drastiquement les permis de travail. On passe de 11 103 décisions positives en 2024 à peine 8 384 en 2025. C'est une contradiction flagrante. Il ferme la porte à ceux qui font tourner la machine juste pour satisfaire une matrice nationaliste.
Ah mais attendez, ce resserrement des visas, ce n'était pas l'objectif économique principal. C'était le compromis politique indispensable. Sans cette concession à Purra, Orpo n'aurait jamais eu sa majorité pour faire le grand nettoyage des finances publiques.
Un nettoyage qui coûte cher socialement, vous l'admettrez, hein ?
Mais il fallait acter la fin de ce consensus paritaire pour restaurer la compétitivité. En restreignant le droit de grève politique qui permettait aux syndicats de bloquer les ports pour protester contre une loi et non pour des conditions de travail, le gouvernement ne fait pas d'idéologie. C'est une adaptation pragmatique pour que l'économie ne soit pas prise en otage.
Prise en otage, vraiment. Mais regardez les faits dès le début de ce mandat. En février 2024, cette méthode forte a provoqué des blocages massifs de l'industrie d'exportation, des annulations en cascade chez Finnair, et face à ça, le gouvernement d'Orpo a catégoriquement refusé de s'asseoir à la table des négociations. Ce n'est pas de la compétitivité, ça prouve une volonté de destruction brutale des syndicats.
Bon, nous arrivons au moment de faire la part des choses. Je maintiens que cette transition finlandaise, bien que douloureuse socialement, est une adaptation logique et inévitable aux réalités froides du marché mondial, tout simplement pour garantir la survie de ses finances.
Et moi, je reste convaincu que, sous couvert de rigueur budgétaire, le pays a délibérément sacrifié son modèle social pacifié pour embrasser le populisme européen classique.
Je pense néanmoins que nous pouvons converger sur une évidence absolue. L'exceptionnalisme finlandais tel qu'il existait avant l'entrée dans l'OTAN est définitivement révolu.
Oh, totalement. Ce scrutin a clos le chapitre de l'optimisme paritaire. La Finlande a rejoint la matrice politique souvent fracturée du reste de l'Europe.
Exactement. La complexité de cette transition mérite d'être approfondie. Il appartient maintenant à chacun de nos auditeurs de juger si ce rattrapage brutal des normes européennes constitue une modernisation nécessaire ou non.